franceinter.fr.
Carnet Campagne, bonjour. C'est un carnet spécial que nous vous proposons aujourd'hui puisque nous sortons du département d'accueil de la semaine, l'Oise, pour ouvrir un volet entièrement consacré à la santé. Rassurez-vous, il ne sera pas question de tiers payants ou d'honoraires, mais d'un problème bien plus grave, docteur, celui de la répartition des professionnels de santé, à commencer des médecins généralistes dans les différents territoires de l'Hexagone. Certains quartiers urbains et de nombreuses zones rurales souffrent d'un manque de médecins. Paradoxalement, leur nombre serait suffisant en France, mais leur répartition très inégale. Grégory Sfarque, médecin lui-même, avait déjà créé une plateforme de remplaçants de généralistes il y a quelques années. Il revient aujourd'hui avec une révolution technologique, une cabine de santé numérique utilisable à distance. Il est l'unique invité de ce dossier des carnets.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Grégory Sfarque, bonjour.
Bonjour.
Grégory, médecin, directeur médical et scientifique d'une société qui a 7 ans d'existence, née en 2008.
C'est ça.
H4D, on va en parler pendant cette émission spéciale parce que la santé, c'est une préoccupation majeure. Les carnets de campagne s'intéressent bien sûr au sort des villes, mais beaucoup au sort des campagnes et des zones rurales. Il y a un énorme déséquilibre, on le dit régulièrement en France, sur l'établissement des médecins généralistes. Alors, il y a Marisol Touraine qui a proposé en 2012 un pacte territoire santé avec différentes possibilités. C'est un revenu amélioré pour les étudiants de fin de cycle qui s'engagent à s'installer pendant un certain temps dans un espace rural, ou en tout cas un espace qui nécessite médecin généraliste. Pour d'autres, c'est un complément de salaire de façon à garantir un train de vie normal qui va gêner certaines personnes. Si je dis qu'il est à hauteur nette de 3 640 €, j'ai lu ça dans les textes. Un prof débutant gagne 3 fois moins et balancé dans une académie à 600 km de son lieu d'études et de formation, un médecin a le droit de choisir. Il y a quand même une injustice là-dedans, non ?
Il y a ce qui peut être perçu comme une injustice, mais qu'il y a l'histoire de, je dirais, l'enseignement de la médecine en France. Mmh. La notion du numerus clausus en 70 et la restriction des médecins, puisqu'il y en avait trop partout avant, qui a fait que quand il n'y en a pas eu assez, ils ont pu choisir librement leur lieu d'installation. Avant les années 70, ils allaient là où on avait besoin d'eux. Je pense qu'un des gros pavés, c'était ça, le numerus clausus. On s'est dit qu'en réduisant le nombre de médecins, on allait réduire le nombre de dépenses de sécu. Bon, en fait, on a réduit le nombre d'accès aux soins dans les campagnes.
Oui. Avec donc une inégale répartition, c'est un petit peu comme on le disait jadis, des retraités qui choisissaient au moment de leur retraite plutôt des lieux de villégiature agréables, montagne ou mer. Ben, on retrouve à peu près la même répartition pour les médecins. C'est vrai que sur les zones côtières, c'est plutôt privilégié, mais dans le cœur de la France, l'Auvergne, l'Est de la France, Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne, là, c'est véritablement un désert. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la moyenne des 250 médecins pour 100 000 habitants.
Oui, c'est ça. Et l'écart va continuer à se creuser pour plein de raisons. Hein. Des raisons d'aménagement du territoire, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Des raisons financières, pas vraiment. Raison pour laquelle vous en parliez. Ouais. L'histoire de donner des sous à un médecin pour s'installer en pleine campagne, ça va pas faire grand-chose parce qu'il peut gagner autant, voire plus, dans une zone de confort. Bref, oui, ça va s'aggraver tant qu'on n'aura pas pensé, non pas, je dirais, amener un médecin pour redynamiser toute une population, mais penser en termes d'aménagement territorial global, puisque bon, pour la faire courte, un médecin, en général, quand il sort de la fac, il a une trentaine d'années, il vient d'avoir un ou deux enfants éventuellement, et sa femme ou son mari, en théorie, a un travail, ou aimerait trouver un travail, et c'est pas en race campagne que les enfants vont trouver facilement une école et le conjoint un travail. Donc, faire venir un médecin, soit, mais il n'est pas tout seul.
Il y a les maisons de santé. Alors, d'ailleurs, dans le réseau Franche-Comté, c'est un des premiers réseaux à concevoir ces maisons de santé, où on regroupe différents savoir-faire médicaux. C'est une des résolutions possibles. On annonce 1000 maisons de santé en 2017 en France. Serait-ce suffisant? C'est pas certain. Vous, en 2005, vous fondez une association urbaine qui va fédérer des médecins remplaçants, garantir leur protection sociale durant leur temps de travail, parce que apparemment c'était pas toujours certifié, et puis surtout créer un portail qui permet aux médecins installés de converser et d'échanger avec les médecins remplaçants.
Oui, c'est ça. Le point de départ de cette première association que j'ai créée, donc co-créée en Basse-Normandie, c'était d'assurer la protection sociale des médecins remplaçants qui n'étaient pas couverts. Ça, c'est une découverte qu'on a fait par malheur dans une situation un peu dramatique. Mais aussi, surtout,
une consoeur qui est décédée brutalement.
C'est ça, qui est décédée brutalement en quelques semaines. Et donc, qui n'avait aucune couverture puisqu'elle n'était pas médecin thésée, elle ne pouvait pas prétendre à ça. Ça a changé depuis, heureusement. Et par ailleurs, faire en sorte, à l'époque, en 2005, toujours un peu le cas, la Basse-Normandie, c'était pas la région la plus pourvue en médecins. L'idée était de faire en sorte que tous les médecins remplaçants un peu errants puissent se regrouper dans une structure où ils se reconnaissent, ils discutent et puis ils échangent, qu'ils soient identifiables aussi par les médecins généralistes installés et spécialistes. Et que cette bourse d'échange via un site internet puisse se faire de façon très simple. Le médecin met ses dates de desiderata de remplacement. Le médecin installé met la même chose pour pouvoir être remplacé. Et l'idée était de ne pas s'en tenir au remplaçant. C'est-à-dire que si un remplaçant se sent à l'aise effectivement dans un endroit qu'il n'aurait jamais soupçonné, pourquoi pas aller s'associer avec ce médecin ou s'installer aux alentours parce qu'il y a des besoins.
Grégory Swark, on dit qu'en France, finalement, on a autant de médecins comparés aux voisins européens, autant, voire plus de médecins généralistes en proportion de la population concernée. C'est vrai ?
C'est vrai, la répartition, c'est ça le problème. La répartition et l'organisation autour du soin, et je dirais les parcours de soins. Les parcours de soins, ça veut dire comment un patient peut accéder à un soin sans en abuser, mais sans non plus en manquer, sur tout un territoire, et notamment sur des territoires où il n'y a plus forcément beaucoup d'attractivité.
Ouais. Et puis on dit très souvent, on associe évidemment désert médical à l'espace rural, et des zones urbaines qui sont affectées aussi par une forme de désert médical.
Et oui, parce qu'on raisonne, nous, en termes de densité médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins par habitant. Et faut bien voir que en région parisienne, par exemple, la région parisienne, en quelques années, a vu sa densité diminuer considérablement parce qu'il y a toujours de plus en plus d'habitants et de moins en moins de médecins. Alors on pourrait croire que tout est facile et tout est accessible. C'est sûr qu'en valeur numérique, il y a beaucoup de médecins, mais comparé au nombre d'habitants, il y en a bien trop peu.
Carnet de campagne sur France Inter.
Grégory Swark, invité des carnets de campagne, de ce carnet spécial santé, Grégory, médecin, directeur médical et scientifique de la société H4D. Alors, on en vient à cette société, c'est un de vos confrères, Franck Bodino, que vous rencontrez en 2008, qui va vous proposer de porter ce projet de Health for Development, j'essaie de le dire comme il faut, mais j'y arriverai jamais, et vous mettez au point la consultation.
C'est ça, alors... Rendons à César ce qui lui appartient. Mmh. Franck est un vieil ami avec qui j'ai pas mal bourlingué, notamment dans le domaine des problématiques de santé, d'accès aux soins, lorsqu'on était tous les deux au syndicat des internes. Moi, de mon côté, j'ai continué à travailler et à exercer en libéral, entre autres. Et lui a remplacé aussi dans des zones bien désertiques, notamment le Vercors. Il fait aussi pas mal d'humanitaire, il s'est promené un peu partout dans le monde. Et on s'est retrouvé un jour, en 2007, sur une terrasse de café, en se disant, bon, il y a un vrai problème. C'est quoi le problème? C'est qu'on ne peut plus apporter les médecins aux patients. Il va bien falloir trouver une solution pour apporter le soin, si ce n'est pas le médecin. L'idée étant d'allier les nouvelles technologies à la santé et de créer un outil qui permettrait, à distance, de faire un diagnostic, au moins une belle orientation pour une pathologie ou un problème de santé, et voire même éditer une ordonnance à la suite de ce diagnostic. Et effectivement, cette société a été créée en 2008. Il a fallu créer le concept, créer l'outil. Il s'entourait d'une belle équipe de recherche et développement. Lui, il avait la théorie, il a trouvé les types pour faire la pratique. Ils ont travaillé dans les tout petits locaux en périphérie parisienne pour réussir à créer d'abord à la main sous forme de maquette et ensuite en réel cette fameuse station, cet outil de télémédecine avec plein d'objets connectés qui permettent de faire un diagnostic.
C'est une cabine, ça pourrait être un spa. Voilà, il y a le fauteuil, il y a un écran, donc on peut être en relation par visioconférence avec un professionnel de la santé.
C'est ça.
Et puis, alors, les paramètres clés dans les mesures, tension artérielle, rythme cardiaque, taux d'oxygène sanguin, poids, taille, température, et puis donc électrocardiogramme possible.
Oui.
À distance, comme ça
Et oui, il y a toute une batterie d'examens qu'on peut faire, les classiques. Ouais. Ça se présente sous forme de ceinture qu'on applique sur le thorax, de façon assez simple. Et le tracé d'électrocardiographe sort à la fois pour le patient, mais aussi pour le médecin de l'autre côté, qui peut l'interpréter en direct. Dernièrement, se sont rajoutés à tout ça quelque chose qui mesure la glycémie pour le diabète, et la surveillance du diabète, des tests auditifs, des tests visuels.
Et les connexions sont numériques.
Les connexions sont numériques.
Alors justement, on prenait des régions de l'Est et des départements de l'Est qui sont affectés par ce problème d'un trop petit nombre de médecins généralistes, c'est que très souvent, là aussi, ce sont des territoires qui sont touchés par le bas débit. Donc l'installation des nouvelles technologies est quasi impossible.
L'apport de la santé ne se fera pas sans le reste. L'aménagement du territoire, ça veut dire aussi tirer des lignes pour amener du câble et puis faire en sorte qu'il y ait du débit, pas forcément du ultra haut débit. Bon, à titre purement scientifique, 2 mégas ascendants, 2 mégas descendants suffisent pour faire une téléconsultation, ce qui n'est pas non plus délirant. Mais on rejoint effectivement la problématique globale d'aménagement du territoire.
Vous n'allez pas, Grégory, éveiller des soupçons de la part de la profession en disant « Oh là là, le confrère, non, il s'en sort bien, il est en train de faire son beurre, là. Il est en train de créer une entreprise qui va normalement faire un capital avec des revenus immenses en développant cette technique de consultation à distance. »
Alors. Bon, évidemment, ça, c'est ce que vous dites, c'est des réactions qu'on peut avoir, effectivement. On peut nous opposer ça, ce qui est légitime. Hein. Moi, le premier, si j'avais pas été dans le bain, je pense que je me serais dit, qu'est-ce qu'ils font, les gars, à même pas être devant leurs patients, à toucher leur pognon, comme on dit. Non, le boulot qu'on fait, nous, c'est vraiment de tâcher de participer à l'aménagement du territoire dans le terme de la santé. Jamais on n'installera une cabine sans demander à qui que ce soit. Les médecins sont dans la boucle et doivent être dans la boucle pour participer à ça. C'est eux peut-être qui seront, et certainement d'ailleurs, qui seront les téléconsultants de cette cabine. Non, l'idée c'est vraiment de participer à l'effort collectif et pas de faire l'individuel avec sa petite cabine et dire « nous, on sait faire mieux que les autres
». Dernière question, le coût.
Le coût est très variable, c'est-à-dire que si quelqu'un d'un organisme privé veut s'acheter une cabine, il se l'achète et puis il paye plein pot.
Une collectivité locale,
effectivement, l'idée c'est de mettre en partenariat tous les acteurs potentiels pour pouvoir financer cet outil. L'idée pour nous, c'est pas forcément de vendre un outil à 100 000 euros, c'est de plutôt le faire fonctionner en termes locatifs, participatifs, c'est-à-dire que la communauté de communes, conseil départemental, conseil régional, fonds européens, que tout le monde mette la main à la poche, que nous ne ruinions personne pour éviter qu'un territoire se retrouve effectivement sans cet outil alors qu'il en a besoin, et faire en sorte que, de notre côté, ça nous permette de continuer à faire de la recherche, du développement, et évidemment faire grandir notre service apporté, que ce soit en termes de prise de rendez-vous, que ce soit en termes de téléconsultation, etc.
Mais pour des zones rurales, pourquoi ne pas la rendre mobile, cette consultation?
C'est une idée fabuleuse, c'est des choses auxquelles on a pensé. Dans l'immédiat, nous on s'était vraiment dit que ça pouvait être installé dans un lieu de regroupement social. Pour donner quelques exemples imprécis, puisque c'est ce qui va se passer par chez moi en Normandie, on va en installer une dans une EHPAD, une maison de retraite, qui servira en fait au bassin de population alentour. Et les gens se rendront dans cet endroit, qui est un village où il n'y a pas grand-chose autour, à vrai dire, pour faire leur bilan de santé, pour faire leur téléconsultation, etc. Et pour s'y regrouper, éventuellement discuter, etc. L'idée, c'est de faire aussi de créer une zone de regroupement social et médical. Et de pas forcément faire comme le bibliobus, d'aller voir un patient et un autre, parce que finalement, ça prendrait un temps fou de transporter cette cabine qui pèse quelques centaines de kilos sur un 38 tonnes et puis l'amener de maison en maison.
Le site, c'est h-4-d.com et vous aurez toutes les informations avec un projet d'installation dans le département que nous avons traversé cette semaine, à savoir l'Oise, à Nogent-sur-Oise. Enfin, il est question d'un projet de consultation à cet endroit. On en reparlera évidemment. Merci Grégory Svark.
Merci à vous.
Et un dernier mot sur notre région de la semaine, la Picardie. Premier désert médical de France. 77 généralistes pour 100 000 habitants. Pour préparer un autre paysage des services de santé de proximité, l'ARS, l'Agence régionale de santé de Picardie, le rectorat de l'Académie d'Amiens, ont créé en fin d'année dernière une filière d'excellence santé. Le but est d'accompagner les jeunes de la seconde à la première année commune aux études de santé afin de leur donner l'envie de s'engager dans un cursus santé et le souhait que ces jeunes sollicités soient ultérieurement, si c'est leur choix, plus sensibles à l'installation dans leur région d'origine. Voilà une bonne initiative. Avant de nous quitter, je rappelle que la semaine prochaine, nous serons dans la Somme, puis le Pas-de-Calais avant de terminer le mois en Haute-Garonne. Merci de nous écrire toujours comme vous le faites régulièrement. Merci à Juliette Gou qui réalisait les émissions cette semaine, à Joël Levert, aux techniciens et siennes de France Inter qui ont laboré comme chaque semaine, en particulier aujourd'hui, David Federman et Fabrice Desmaz.